Rayon Libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge. Hein.
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à tous. Cette semaine, l'Audax Club Paris, l'ultra distance pour tous et pour toutes. Vous êtes sur Cause Commune, c'est le moment de Rayon Libre. Et cette émission, elle n'est pas en direct pour une fois, elle est enregistrée le 19 novembre 2025. Comme d'hab, je m'adresse à toi qui nous écoutes. Merci pour ta fidélité, tes messages, tes suggestions. Merci aussi pour tes likes sur les réseaux, sur les plateformes d'écoute. Et oui, ça nous aide à émerger. Merci aussi à l'équipe de Cause Commune. Merci à ceux qui donnent pour soutenir notre association, notre travail. Donner des sous, des likes, des commentaires, on prend tout. C'est ça l'associatif. L'Audax Club, l'ultra distance pour tous. Mais avant, autant la notion de confort sur un canapé, une chaise, un fauteuil, dans une voiture, est la réunion d'un ensemble de paramètres qui sont plutôt universels. On dit d'une voiture qu'elle est confortable, par exemple pour son isolation phonique, la qualité de ses suspensions, le moelleux et la fermeté des sièges et des banquettes, la souplesse du moteur, la qualité acoustique de l'autoradio, sa tenue de route, l'ensemble des options allégeant la charge mentale de la conduite, comme le cruise control par exemple, les radars évidemment de détection des panneaux, la qualité des matériaux, des garnitures. Chacun peut apprécier ou pas le choix de cuir ou de la moquette. Il n'empêche, les goûts personnels ne sont qu'une infime partie du confort ressenti. Sur un vélo, eh ben c'est totalement différent. Quand je lis d'un vélo qu'il a une selle super confortable ou une position ultra confort, une géométrie privilégiant le confort de son pilote, je me demande comment le fabricant peut décider pour moi, pour nous tous, ce qu'est une position, une géométrie, une selle confortable. Celui qui a des problèmes au cervical ne sera pas confortable dans la même position que celle qui a des douleurs au lombaire, qui elle-même ne sera pas aussi confortable dans la même position que celle qui s'est fracturée il y a quelques années les poignets. La selle, c'est pareil, nous avons tous une paire de fesses différentes, des habitudes de pédalage différentes. Je n'ai jamais mal aux fesses, sauf sur celles annoncées super confortables. Les selles qu'on trouverait plutôt sur une mobylette qu'un vélo. À vélo, pour l'un, le confort sera surtout lié au rendement, pour l'autre, le confort sera lié à la rigidité globale du cadre, pour un autre, le confort sera lié à une position. Le commun des mortels ne fait pas une étude posturale quand il s'achète une voiture, un canapé, un fauteuil. L'étude posturale peut changer du tout au tout le confort sur un vélo juste en appliquant quelques petits ajustements. Le commun des mortels gagne en confort sur son vélo en passant par la case étude posturale. Et à propos de confort, eh ben il faut le trouver sur son vélo quand on part en randonnée pour quelques heures ou quelques jours sur un BRM 200 ou un BRM 600. On arrive au bout, principe avalant, parce qu'on pédale confortablement sur son bicloune. Et avec mon invité du jour, on ne va pas nécessairement évoquer l'étude posturale et le confort. On va parler de randonnée à vélo, d'ultra distance, celle qui s'ignore, qui ne se fanfaronne pas. Elisabeth Lavaille est responsable des brevets mondiaux au sein de l'Audax Club parisien. On a reçu ici en octobre 2023 Jean-Pierre Chardon, le directeur du Paris-Brest-Paris. Notre rayon libre du jour est dans cette mouvance. Installez-vous confortablement et on écoute Elisabeth. Bonjour Elisabeth Lavaille, merci infiniment d'être au micro avec nous aujourd'hui.
Bonjour Jérôme.
Et pour vous Elisabeth, le confort sur un vélo, vous diriez qu'il commence par quoi ?
Alors, je dirais qu'il commence par une bonne position, le fait de se sentir bien et de pouvoir rouler longtemps.
C'est ça, hein, l'enjeu il est là et on le sait, on le sent qu'on est bien sur son vélo quand on peut rouler longtemps.
Oui.
Je crois que nos auditeurs, ils ont quand même besoin de comprendre plus en détail ce que c'est l'ACP.
Oui. Alors, ACP pour Audax Club Parisien. Donc, c'est un club cyclotouriste affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme, la FF Vélo. C'est un club très ancien qui a été fondé en 1904. Fait partie de l'histoire du cyclotourisme en France.
Ouais. Et dans le monde même, non ?
Dans le monde aussi, en fait, ça s'est fait progressivement, puisqu'en 1921 a été créé le premier brevet de randonneur français, un brevet de 200 km à faire en une seule étape. Et à la suite de ça, des brevets de 300, 400, 600 km. Les brevets de randonneurs français sont devenus brevets de randonneurs européens, puis brevets de randonneurs mondiaux. À l'heure actuelle, on en fait dans plus de 70 pays. Hein, tout le temps, toute l'année.
Et ça veut dire que c'est piloté et approuvé par l'Audax Club parisien ?
Oui, c'est ça. En fait, chaque représentant d'un pays va présenter ses parcours, ses projets de parcours, de randonnée aux responsables des randonneurs mondiaux. Donc, c'est pas moi, c'est Jean-Gilbert Faburel qui s'en occupe pour le monde. Les Français vont présenter ça à Didier Innocent et Thierry Pigano qui s'en occupent pour la France. Moi, je m'occupe uniquement des brevets de l'Audax Club parisien, organisés par l'Audax Club parisien.
D'accord.
Mais l'Audax Club parisien, en fait, homologue les brevets qui sont faits partout dans le monde. Donc, on chapeaute en quelque sorte cette cette grande pieuvre qu'on a créée, dont on a lancé l'idée et qui a une idée qui a essaimé.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est sanctionné, entre guillemets, par ou approuvé comme étant un BRM approuvé par le Dax Club parisien? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont éliminatoires complets et d'autres qui sont très appréciés?
Alors, donc il s'agit de randonnée d'une certaine distance, un minimum de 200 km dans un temps limité. Oui. C'est le même temps pour tous les brevets, 200 km, ça va être 13 heures, 300 km, 20 heures, 400, 27 heures, 600, 40 heures. Oui. On apprécie que le parcours ait été reconnu, qu'il soit paisible, plaisant pour les cyclistes, oui. Qu'ils voient des beaux paysages, qu'ils soient en sécurité, qu'ils vivent une belle aventure en fait. Mmh. Et donc il va y avoir des checkpoints, des contrôles, donc si possible avec des bénévoles, parfois ça n'est pas possible, hein. Ouais. Et un accueil au départ, à l'arrivée, qui va être convivial. Tout ça, c'est fait avec très peu de moyens, puisque ouais. Les brevets, en fait, ont un faible coût. Et c'est vraiment important, en fait, pour nous, cette idée que la longue distance, ce qu'on appelle un peu plus pompeusement aujourd'hui l'ultra-distance, ouais. Nous, on appelle ça plutôt la longue distance, ça soit accessible à tous, à tous les porte-monnaie. Il n'y a pas besoin d'être riche pour aller faire ça.
Il faut que la longue distance soit ultra-accessible.
Exactement.
Il y a une notion aussi de coût, ça veut dire combien, enfin moi je veux faire un BRM 200 par exemple, ça me coûte combien?
Bah, si tu viens faire un brevet chez nous, ça va te coûter 10 euros si tu n'es pas licencié et 7 euros si tu es licencié FF Vélo.
Et les 3 euros de différence sont ma licence journalière et mon assurance journalière que vous payez à la FFCT, c'est ça?
Non, en fait, comme on est un club FF Vélo, donc on est...
assuré, affilié,
voilà,
ouais.
On fait une ristourne aux autres licenciés de la même fédération. C'est, ouais. C'est un peu une espèce de grande famille quand même.
Mais alors, pour comprendre quand même, quelle est la différence, pareil, là on est en région parisienne, quelle est la différence entre une randonnée cyclotouriste entre les toboggans meudonnais et un BRM que vous organisez?
Alors ça, ce sont des rallyes. Ouais. Les rallyes, donc, ce sont des parcours aussi, des randonnées organisées par des clubs, mais il n'y a pas la même notion de faire une longue distance dans un temps limité.
D'accord.
Donc ce sont des distances plus courtes. Il y a des ravitaux aussi systématiquement, ouais. Tandis que chez nous, le ravito ne fait pas partie de l'esprit. Alors on en rajoute volontiers parce qu'on a envie de faire plaisir à nos participants et que ça fait partie de nos objectifs. Mais ce n'est pas du tout une obligation dans un brevet. Il n'y a pas forcément de ravito, contrairement au rallye où il va y avoir tout le club qui est mobilisé.
Alors, et pour comprendre, est-ce que vous avez une vision ou en tout cas une explication sur le fait que CBRM, c'est l'Audax Club parisien, ait réussi à essaimer et à poser cette façon de faire partout dans le monde? Qu'est-ce qui fait que ça vienne de chez nous?
En fait, c'est lié à l'organisation du Paris-Brest-Paris tous ouais. les 4 ans, puisque depuis quelques éditions, pour participer à Paris-Brest-Paris, il faut avoir l'année précédente, enfin l'année en cours, par exemple pour Paris-Brest-Paris 2027, il va falloir en 2027 réaliser un brevet de 200 km, un autre de 300, un de 400 et un de 600 km. Avant de participer à Paris-Brest-Paris.
Et ça, c'est quand vous dites 2027, parce que le Paris-Brest-Paris, c'est en août de l'année, de tous les 4 ans en Olympiade. Ça, quand vous dites dans l'année, c'est-à-dire que c'est entre janvier 2027 et septembre et août 2027, ou septembre 2026, août.
Alors,
2027.
C'est globalement la saison en France. Hein.
Ouais.
La saison commence en général en janvier, donc ça sera de janvier 2027 jusqu'à fin juin.
Ouais.
2027, ensuite ça va être bouclé puisqu'il faut qu'on prépare les inscriptions. En réalité, ça commence en novembre 2026, puisque
ouais.
dans certains pays, en fait, le climat n'étant pas le même, c'est important qu'il y ait la novembre pour que les cyclistes puissent faire aussi...
Ouais, les pays où il fait très 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 froid.
Dans l'autre hémisphère,
dans l'autre
en fait,
hémisphère.
C'est différent.
Ok, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, puisqu'on parle du Paris-Brest-Paris qui est la course que tout le monde nous envie, on peut dire ça ou pas? Ou tout le monde vous envie?
Alors,
c'est pas une course d'ailleurs.
Voilà, c'est ça.
Je savais que vous alliez me reprendre là-dessus.
Ça n'est
l'événement.
C'est une randonnée, mais c'est un petit peu ambigu parce que c'est à faire en temps limité, 90 heures minimum
ouais.
pour un peu plus de 1200 km. C'est effectivement quelque chose qui est devenu mythique et qui est étonnamment encore plus emblématique à l'extérieur de la France qu'en France. C'est très, très connu en Asie, par exemple.
Les Japonais
oui. À fond. Mais le Vietnamien, enfin, il y a les Américains, bien sûr. Il y a vraiment des communautés de cyclistes de longue distance qui viennent en très grand nombre sur Paris-Brest-Paris. C'est les deux tiers des effectifs sur l'édition précédente de 2023.
Et c'est à peu près, c'est ça, hein, ce que je disais, c'est à peu près 8000 participants, inscriptions, c'est ça ?
Alors oui, en fait, on met la jauge à 8000. Donc on avait plus que 8000 en préinscription et finalement sur la ligne de départ à peu près 7000 personnes.
Parce qu'il y en a un qui s'est blessé, parce que finalement il n'est pas prêt, parce qu'il n'a pas fait le dernier BRM ou autre.
Exactement.
Alors, vous avez ce Paris-Brest-Paris qui est emblématique, qui a lieu tous les 4 ans, mais vous, le club Audax Club parisien, vous bossez un peu plus que tous les 4 ans. Et d'ailleurs, je dis vous bossez, mais vous êtes actif bénévolement, parce que c'est du bénévolat aussi, ça.
Oui, absolument. Il n'y a pas du tout d'employés à l'Audax Club parisien. Nous sommes tous bénévoles.
Oui.
Ouais, alors déjà, le Paris-Brest-Paris, en fait, ça se prépare sur 3 ans et demi.
Pour vous ? Oui.
Ouais. Ouais. Nous, ça fait déjà plus d'un an et demi qu'on est dessus pour la prochaine édition, en fait. Hein. Et en fait, ça continue aussi un petit peu après, puisqu'il faut boucler l'édition. Donc, en gros, on ne s'arrête jamais. Hein. Paris-Brest-Paris ne s'arrête quasiment jamais. Mais sinon, on a, oui, comme n'importe quel club aussi, des activités hors du Paris-Brest-Paris, assurément.
Et donc, ça veut dire quoi ? C'est un club de cyclotourisme comme les autres, ou presque, sauf qu'il a une aura internationale ? Ou qu'est-ce qui le différencie, encore une fois, du vélo-club Meudonnais, pour reprendre cet exemple-là ?
C'est un club organisateur. En fait, oui. Nous ne sommes pas un club qui va systématiquement faire sa sortie du dimanche. En fait, c'est pas du tout dans notre ADN. Nous sommes pour beaucoup d'entre nous des cyclistes assez indépendants, des cyclistes. En fait, souvent, le Dax Club parisien comporte des membres qui n'ont pas besoin de club pour rouler.
Oui.
Ce sont des gens qui sont. C'est une communauté, en fait. Maintenant, on dirait vraiment une communauté parce que tu vas rencontrer des gens qui sont qui vont te parler d'aller passer la nuit à vélo au solstice de décembre, par exemple. Et la personne à qui tu parles va dire « Ah ouais, c'est trop cool ce truc !»
Et j'y vais. Ouais. Et viens, on y va ensemble.
Et au lieu de dire « Mais ça va pas, ouais. mais il fait des températures atroces, on est tellement mieux dans son lit, il va faire nuit tout le temps, tu vas rien voir !» Non, non. Donc en fait, c'est une communauté un petit peu d'aventuriers, de gens qui ont qui aiment le défi contre soi-même, avec les autres. Pour nous, c'est hyper important, ça, hein, cette idée de solidarité et le fait d'aller chercher un petit peu ses limites dans des conditions toujours un petit peu ludiques. Il y a aussi cette idée de projet un petit peu fou, un petit peu fantaisiste.
Un petit peu punk ?
Un petit peu, ouais. Il y a quand même cette idée d'aller trouver une idée amusante et de la réaliser à vélo.
On va s'écouter la pause musicale. Vous écoutez Rayon Libre, vous êtes sur Cause Commune 93.fm. Un Rayon Libre qui vous dit que l'ultra-distance peut s'envisager un peu différemment, sans tambour ni trompette. Nous sommes avec Elisabeth Lavaille, responsable. Mais je crois pas que vous soyez... En fait, je crois que je me trompe. Je dis que vous êtes responsable des brevets mondiaux au sein de l'Audax Club parisien, mais c'est pas ça.
Non, je suis responsable des brevets de l'Audax Club parisien.
Et ben voilà, elle l'a mieux dit que moi. On va s'écouter Naked et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.
Making ripples in our paper cups, and all we do is glide.
Retour. Nous sommes toujours avec Elisabeth Lavaille, bénévole au sein d'Audax Club Paris, deuxième partie de Rayon Libre sur Cause Commune 93.1 FM. Elisabeth, vous venez de le dire, vous êtes bénévole au sein de ce ACP. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous vous engagez sur cette forme de bénévolat ?
Oui.
Oui, vous pouvez.
Vous pouvez.
Et j'y répondrai pas.
Si, je vais y répondre parce que ça me tient vraiment à cœur. Moi, j'ai roulé très longtemps seule, en dehors de toute organisation. Je prenais mon vélo, mes sacoches, ma carte bleue, j'avais des cartes Michelin et j'allais rouler. J'ai fait comme ça des dizaines de milliers de kilomètres en France. Et je me suis mis en tête de faire Paris-Brest-Paris, que j'ai découvert plus ou moins sur un malentendu.
Ouais.
Je l'ai fait, j'ai découvert les brevets, j'ai fait Paris-Brest-Paris, je trouvais ça chouette. Et je me suis dit, bah voilà, tout ça c'est fait grâce à l'engagement de milliers de bénévoles. Mmh. C'est super. Et pendant maintenant quelques années... je viens d'en profiter et j'aimerais moi aussi participer. J'aimerais rendre quelque chose de ce que j'ai reçu. Et donc c'est pour ça que je suis rentrée à l'Audax Club parisien. C'était pas parce que j'avais besoin d'un club, mais parce que j'avais envie de participer à ce bel édifice.
C'est une sorte de forme de transmission ?
Aussi, mais c'est plutôt du partage.
Ouais. Hein,
c'est pas descendant, j'ai appris plein de choses évidemment. Et j'espère en transmettre aussi.
Mais c'est intéressant aussi parce que tout à l'heure, juste avant, vous disiez, nous, l'Audax Club parisien, on est plutôt un club organisateur. Je pense que, de sous-entendu, on est plus organisateur que formateur, c'est ça ?
Je sais pas si c'est... Je sais pas comment vraiment le définir. C'est-à-dire que nous, on organise beaucoup de choses. On fait des randonnées permanentes, notamment les Flèches de France,
ouais,
qui sont 20 parcours de Paris vers des villes côtières ou frontalières,
ouais,
qu'on peut faire n'importe quand. On organise plein de brevets.
Alors attendez, qu'on peut faire n'importe quand, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la trace, on la trouve sur une carte Michelin ou on la trouve numériquement quelque part ?
Ouais, on est quand même arrivé au 21e siècle. On a mis le temps, mais on y est. Donc en fait, si vous allez sur notre site, vous allez trouver un tableau avec les traces, les GPS, les GPX.
Et donc ça veut dire qu'il y a une mine d'informations, que c'est des traces qui sont validées, roulées, qui
sont
reconnues et sur lesquelles on peut y... Alors j'allais dire, on peut y aller les yeux fermés, peut-être pas, c'est mieux de pédaler les yeux ouverts, mais c'est des traces qui sont magnifiques et parfaites.
Alors ce sont des traces qu'on est en train de refaire, parce que certaines sont anciennes, mais la date de mise à jour est mise sur le site, donc les nouveaux parcours depuis 2023 sont globalement des parcours qui correspondent à la façon de rouler aujourd'hui.
Ouais, mais c'est que de la route ?
Oui, c'est que de la route.
Pas de gravel ?
C'est-à-dire que déjà remettre tout ça à jour, c'est beaucoup de travail.
Ouais.
Donc le gravel, on aimerait, mais pour plus tard.
Pour plus tard. Ça m'amène une autre question, parce que là, ce que vous êtes en train de nous dire, qu'il y a un vrai trésor, j'imagine, en France et puis aussi dans le monde. Ça veut dire que quand on organise un BRM, j'en sais rien, à Rio de Janeiro, il y a aussi une trace numérique qui existe. Donc ça veut dire si quelqu'un qui nous écoute part à Belém, tiens, Belém, il y a la COP30 en ce moment, il part à Belém et il a un vélo, il peut aller faire un BRM local, enfin, ou en tout cas prendre la trace locale tout seul comme un grand et faire cette trace et découvrir des paysages fantastiques.
Alors en tout cas, il peut, s'il y a un BRM d'organiser, il le verra sur notre site.
Ouais.
Il y a un calendrier en ligne qui est sorti, là, il sort en novembre chaque année, donc par pays, par date. Et selon les organisateurs, soit la trace est libre, soit il faut s'inscrire pour avoir la trace.
Ouais, soit elle est disponible et offerte à la communauté.
C'est ça.
Soit, ok. Et justement, ça m'amène une question que je trouve vachement importante, c'est que quand les institutions vélo annoncent qu'elles veulent faire de la France la première destination mondiale du cyclotourisme, comment est-ce qu'elles s'appuient sur votre expertise, sur ce que vous faites ?
Je crois pas qu'elle s'appuie sur nous.
You. Ok. Et alors, l'autre question dans l'autre sens, c'est comment est-ce qu'on peut faire rayonner ce savoir-faire que bah, que vous avez, qu'on a en France, que vous entretenez, pour faire en sorte que bah, les Belges, les Suédois, les Norvégiens, les Espagnols, ils sachent tout ce que vous avez, les pépites que vous avez dans votre base de données.
Ben, on réfléchit à avoir une communication un peu plus efficace, mais c'est vrai que globalement, nous, tout est sur notre site internet. Donc, ouais. Si on connaît le Dax Club parisien et qu'on tape Dax Club parisien sur Google, on tombe sur notre site et on va chercher plein de choses.
Mais c'est intéressant parce que tout à l'heure, vous me disiez le Paris-Brest-Paris, c'est une marque mondialement connue et qui attire et qui est très excitante aux États-Unis ou en Asie, ce que vous disiez. Mais est-ce que ben, c'est pas non plus une marque qui phagocyte un peu une marque qui s'appelle le Dax Club parisien?
Bah, je sais pas.
Ouais,
je sais pas répondre à cette question. Franchement,
mais par exemple, votre site web, il est que en français ou il est traduit dans un millier de langues?
Notre site web de l'Audax Club Parisien, il est juste en français. Ouais. Celui du Paris-Brest-Paris est en français et en anglais.
D'accord.
Et en anglais.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous et qui n'est pas encore mis en place pour justement ce truc-là que les institutions du vélo en France voudraient faire, rendre la France le premier pays cyclotouriste au monde?
Je ne sais pas si on arrive à avoir cette hauteur de vue, en fait, pour s'intégrer dans cette réflexion-là, nous, à notre toute petite échelle, en fait.
Ouais.
Et on n'est pas du tout sollicité pour ça.
Vous n'êtes pas sollicité, et pourtant vous faites partie de la FFCT. La FFCT, elle ne vient pas vous voir, elle ne vient pas vous poser des questions, vous disant, mais comment vous avez une expertise, comment est-ce qu'on peut la déployer et par capillarité un peu plus partout en France, par exemple?
Bah non.
D'accord. Eh ben, c'est un peu emmerdant parce que c'est très court comme réponse, mais je comprends. Vous, Elisabeth, le vélo, pour vous, c'est quoi? Ça va être une longue réponse.
Voilà, c'est beaucoup de ma vie.
Ouais. Comment vous y êtes mis?
Je m'y suis mise un peu par hasard, engrainée par mon compagnon d'alors qui faisait de la randonnée à vélo.
Ouais. Et aujourd'hui, ça a une composante, c'est dans votre quotidien le vélo?
Oui, je fais du vélo taf, je fais de la longue distance toute l'année, globalement sans m'arrêter, donc je roule beaucoup.
Ouais. Et comment vous arrivez à trouver le temps? Je ne me rends pas compte, quand on est bénévole au sein de ce club, combien de temps vous donnez par semaine? Vous avez une idée de ça?
Ouais, j'ai une idée, c'est totalement monstrueux. Et je sais pas, ça dépend des semaines, mais on va dire entre 15 et 35 heures. Mais pourquoi, où je trouve le temps, la réponse va être très courte. Je n'ai pas d'enfant.
Ah bah oui, vous n'avez pas d'enfant, mais évidemment, votre enfant, voilà. C'est le Dax Club, bien sûr. Suis-je bête?
Pas vraiment, c'est vraiment ce qui me libère du temps, en fait.
Et je me permets de vous poser la question, même si vous me le disiez un peu en hors antenne, c'est quoi votre métier?
Alors moi, je suis prof et je suis à temps partiel. Parce
D'accord.
que sinon, je ne pourrais pas avoir autant de temps pour ça.
Alors, ma question n'est pas du tout orientée sur vos enfants ou sur vos non-enfants, justement, mais c'est un choix de vie, ça, de travailler à temps partiel pour avoir du temps pour pédaler?
Disons que je préfère organiser des trucs pour le Dax Club parisien que de corriger des copies, ouais.
Oui. Il faut le dire d'ailleurs, les locaux sont tout proches de la radio Cause Commune qui est 22 rue Bernard Dimet, Paris 18. Vous êtes tout près du pont Cardinet, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. On a des locaux tout récents qui sont au 138 rue Cardinet. On tient une permanence le lundi entre 18h et 20h. Donc si vous êtes parisien ou si vous êtes de passage à Paris, un lundi entre 18h et 20h, vous pouvez passer nous voir.
Et on vient vous voir, pourquoi?
Alors on vient souvent nous poser des questions. Qu'est-ce que c'est? J'ai entendu parler des flèches, qu'est-ce que c'est? J'ai rien compris à cette histoire de brevet pour le Paris-Brest-Paris entre les pré-qualifications, les qualifications. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Ou j'aimerais adhérer, mais voilà, j'ai quelques questions.
Ok, donc c'est une vie de club, tout simplement, finalement. Ok. Combien d'adhérents à Paris?
Alors... À l'Audax Club Parisien, nous sommes un peu plus de 160.
Oui.
On a doublé en assez peu de temps. Il y avait à peu près 80 adhérents, je crois, en 2018, un truc comme ça.
Et j'imagine que vous n'avez pas un enjeu d'en recruter encore 300, vous en foutez. Ce qui est intéressant, c'est d'exister et d'être là et que ceux qui veulent vous rejoindre, vous rejoignent.
Oui, mais en même temps, on est bien content qu'il y ait du monde parce que on organise plein de choses. On essaye de le faire de mieux en mieux, de se faire connaître.
Oui.
Et donc, on a besoin du temps temps, de l'énergie, des bonnes idées et des compétences de tous ceux qui nous rejoignent.
Et qui vous rejoignent, non pas pour prendre du temps, mais pour aussi en donner.
C'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment un échange. On trouve plein de choses à l'Eudex Le Parisien. On va faire beaucoup plus de vélos après avoir adhéré chez nous qu'avant, encore plus. Il faut le savoir, on va faire des trucs un peu fous, mais en même temps, on va donner de son temps pour servir du café à 4h du matin à des cyclos.
Ouais. On écoute, vous écoutez Rayon Libre, nous sommes avec Elisabeth Lavaille qui est bénévole au sein d'Audax Club Paris. On va s'écouter la chronique d'Abel Guggenheim. Abel, assurément, il tient la distance. Plus de 250 chroniques proposées depuis septembre 2020 dans cette même émission au Rayon Libre. Toutes les semaines, merci Abel, c'est à toi.
Bonjour. Je termine aujourd'hui mon point sur le sujet des vélos assistance électrique. Je n'ai jamais utilisé de vélo assistance électrique. On m'a pourtant souvent insisté à m'y mettre et parfois même mis en demeure de justifier pourquoi je ne le faisais pas. En fait, ça ne m'est jamais venu à l'idée. J'ai, il y a très longtemps, possédé et utilisé un vélo Solex. J'aurais pu considérer que c'était un vélo assistance thermique. J'ai pensé que c'était simplement un vélo moteur assez peu performant que la publicité décrivait comme la bicyclette qui roule toute seule. On m'a alternativement dit que j'étais un sportif ou un puriste, ce que les gens qui me connaissent un peu savent être faux dans les deux cas. Et lorsque j'ai commencé à avoir un équilibre moins assuré et que j'ai dû m'acheter un vélo adapté à mon âge, j'ai dû à de nombreuses reprises expliquer à des personnes tout à fait sympathiques que l'âge ne changeait rien à mon intention de me déplacer à vélo et non avec un autre type de véhicule, fût-il de motorisation légère. Si tu joues à la belote ou au football, tu ne sauras pas quoi répondre si on te demande pourquoi tu ne joues pas au bridge ou au rugby. J'ai d'ailleurs dans un autre domaine fait un choix qu'on peut considérer comme inverse. J'ai récemment fait l'acquisition d'une brosse à dents électrique. Ma dentiste m'en a félicité en m'expliquant, ce que je reconnais être vrai dans mon cas, que les personnes utilisant une brosse à dents électrique y passaient nettement plus de temps qu'avec une brosse à dents classique au grand bénéfice de la santé de leurs dents. Nous entrons dans une période difficile. Depuis le milieu des années 90, le vélo s'est progressivement implanté en France comme mode de déplacement. Il l'a fait entre autres grâce à des aménagements, à une réglementation, une signalisation conçue pour des vélos tels qu'on les connaissait au XXe siècle, avec deux grandes roues alignées et propulsées exclusivement par l'énergie musculaire. De nouveaux objets, dont les vélos assistance électrique, mais aussi des objets ressemblant à des vélos mais y roulant plus vite, certains admis ensuite par la réglementation comme les cyclomobiles, d'autres non, ont envahi les pistes cyclables. Et si l'on ne peut que se féliciter de la croissance rapide des véhicules de type vélo-cargo pour le transport des enfants et de diverses marchandises, lorsque c'est en remplacement de modes plus motorisés, on est aussi en droit de s'inquiéter des rapports que certains de ces véhicules plus lourds, plus puissants, plus rapides, parfois conduits avec plus de nervosité, sont susceptibles d'avoir avec les vélos qui risquent de se retrouver à nouveau minoritaires dans un endroit qui ne leur conviendra pas. Cette situation peut aussi entraîner d'autres inconvénients concrets. De nombreux signes semblent aujourd'hui indiquer une augmentation de l'accidentologie cycliste. On a d'abord cherché à l'expliquer en disant que cette croissance n'était que logique puisque le nombre de cyclistes augmente. Il semble bien que cette explication soit peut-être insuffisante et que l'accidentologie augmenterait plus rapidement que la circulation cycliste. Y a-t-il d'autres explications ? À lundi prochain.
C'était Abel Guggenheim, Elisabeth Lavaille. J'ai une dernière question. Si j'ai envie de participer à vos événements, comment je m'y prends ?
Alors c'est très simple. Pour vous inscrire, vous allez sur notre site, vous cliquez sur calendrier, vous allez trouver tous nos événements. Il y a une description, un lien pour aller s'inscrire, un petit site, paiement en ligne.
Tout simplement. Et est-ce que pour participer à vos sorties, il faut que je sois entraîné un peu avant ou pas ?
Oui et non. C'est-à-dire que évidemment, on commence pas par 200 km, donc c'est bien d'avoir fait un petit peu de vélo. C'est bien de faire les rallyes dans les autres clubs et c'est bien de rouler avec d'autres gens. Mais quand on a fait 100 km avec un petit peu de vallonnée, ben on peut se lancer sur 200. C'est une allure libre et il y a toujours des pelotons qui se forment. Et justement, c'est libre, donc comme c'est pas des courses, il y a vraiment de la solidarité, des petits groupettos qui se forment. Et souvent, en fin de brevet, les gens qui sont ensemble depuis une heure ou deux, ils vont terminer ensemble.
Autour d'une bière.
Ouais. Souvent.
Super. Merci beaucoup, auditeurs, auditrices. Ça y est, ce rayon libre est terminé. N'oubliez pas, le vélo est une chance et ce serait dommage de ne pas l'enfourcher. Merci beaucoup, Elisabeth Lavaille, d'être venue nous voir ici en studio. Restez sur 93.fm, Cause Commune, il est 14h30. Merci pour votre fidélité, merci pour vos messages et vos commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, trouvez votre confort sur votre vélo. Libre.